Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence on joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, nous allons parler du retour de Shadow Warriors. Ouais. Qui s'en souvient ? Moi, je m'en souviens.
Moi aussi, bah, voilà. Oui, alors, oui, nous sommes déjà deux, hein, et je pense que d'autres personnes vont s'en rappeler.
Ouais, ouais. un peu l'époque du Dickoff du jeu vidéo, quoi. Hein, on est là-dessus. Ouais. Binding of Isaac, Rebirth, le retour de la petite perle d'Edmund Macmillan sur PlayStation 4 et PS Vita, entre autres. Et le gros morceau de cette émission, Dragon Age Inquisition, j'allais dire. En fait, j'ai mélangé entre le français et l'anglais. Hein, Dragon Age Inquisition, voilà, hein, on va le dire comme ça. Qui est peut-être le gros morceau de cette fin d'année de jeux vidéo. En tout cas, une belle surprise, évidemment. Et le reste, Monsieur Fall, le com des com, vous connaissez le programme. Il n'y aura pas de minute culturelle cette fois-ci. Vous avez, peut-être que si.
Il y a peut-être qu'il y en avoir une quand même. On va peut-être en avoir une improvisée, là ou presque. Non, tu nous lances la minute culturelle.
Il n'y a pas de souci, je vous lance. On commence avec toi, Patrick, avec un anniversaire.
Alors, aujourd'hui nous enregistrons, nous sommes le 3 décembre et donc voilà, nous fêtons cette année, alors c'est quand même
ah mais oui j'ai pas oui non mais oh là là pardon et je commence maintenant, mais Joël me regardait avec des yeux et c'est en fait c'est, voilà, j'arrivais pas, mais pourquoi ils m'ont
vu, tu regardais avec des yeux déjà, c'est étrange
parce que nous voulons être introduits,
voilà, et je commence par
certes
et donc je commence à accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël.
Bonjour.
Et Patrick Elio du GTLI, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Oui, bon, désolé, voilà, petit ratage. Et donc on commence avec toi Patrick.
On fête aujourd'hui même les 20 ans du lancement d'une bécane qui a quand même qui a eu un impact vraiment considérable sur l'histoire du jeu vidéo.
Ah, pour le moins, oui.
C'est la PlayStation de Sony qui est sortie donc en décembre 94 au Japon. On parle de la sortie japonaise.
Le 3 décembre 94 au Japon.
Puisque l'Europe, on l'avait eu en septembre 95, je me rappelle encore. Il a fallu attendre un petit peu, on lisait les tests import début 95. Enfin, une bécane qui a vraiment marqué l'industrie, qui a fait un carton, qui a dépassé les 100 millions d'unités vendues, qui a préparé aussi le chemin pour la suivante, la PS2, qui elle a dépassé encore les records.
Mais c'est un peu quand même la première pierre du jeu vidéo moderne.
La PlayStation, elle a pas mal changé de choses en termes d'audience lorsque Sony est arrivé sur le jeu vidéo que cette console. Il faut se rappeler qu'elle est arrivée un petit peu suite à un accord qui avait été signé avec Nintendo qui s'est pas fait. Donc Sony, un petit peu énervé, s'est dit « Bon, allez, bon, Il devait à la base construire le lecteur CD-ROM de la Super NES, ça s'est pas fait.
Qui devait s'appeler la PlayStation.
En deux mots.
En deux mots.
Exactement. Ça s'est pas fait, donc Sony un peu énervé dit bon bah finalement je vais faire ma propre console et je vais me lancer sur le marché de jeux vidéo. C'était loin d'être gagné parce que il y avait des mastodontes à l'époque, hein, Nintendo évidemment, Sega qui était aussi un poids lourd.
Oui, mais alors il s'avançait aussi en voulant atteindre un public beaucoup plus adulte, plus mature. C'était vraiment leur changement
plus
d'image.
Branché, en fait, ouais. Beaucoup plus branché. Exactement. Et c'est vrai que là où Sony a bien joué, c'est qu'ils se sont servis de leurs atouts, c'est-à-dire leur côté multimédia.
Ouais, entre le disque, toute l'industrie, leur
présence dans l'industrie culturelle et voilà, installer des PlayStation dans les boîtes de nuit, mettre des bandes son avec la scène électro britannique dans Wipeout. Enfin voilà, c'est tout
les pubs, le comité anti-PlayStation de l'époque était aussi mémorable. Enfin, il y avait un côté très agressif, rentre dedans. Et puis une bécane qui aussi faisait une rupture avec l'adoption du CD-ROM uniquement. C'est-à-dire qu'on lâchait carrément la cartouche et ça imbriquait aussi tout un business model différent pour les éditeurs, pour les développeurs. C'est-à-dire que là, on pouvait vraiment se lâcher et on a vu des Square Enix venir sur la bécane et nous faire des
difficultés.
Ça a pas mal bousculé de choses et c'est vrai que c'est une bécane qui a vraiment, vraiment marqué les esprits et qui a marqué, c'est vrai, une ouverture sur une nouvelle ère du jeu vidéo. Et donc voilà, donc on fête aujourd'hui les 20 ans et donc aujourd'hui Sony
ce mercredi annonce le fait de
fêter ses 20 ans à sa manière. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne. Allez, par la bonne. Donc c'est la sortie donc le 19 décembre prochain d'une édition limitée de la PS4 aux couleurs de la PlayStation 1, de la toute première PlayStation. Donc on retrouve la livrée grise.
Ça c'est la bonne.
Ça c'est la bonne nouvelle avec le logo d'époque coloré. Parce que c'est vrai que le logo de l'époque était plus coloré. Alors je ne pense pas qu'on ait le boot de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux boot de la PlayStation. On a tous ce son en tête. Bon, je ne pense pas que ce soit au programme. En tout cas, on a vraiment une bécane colorée, etc. qui reprend vraiment.
Colorée, elle est toute grise.
Ben oui, mais c'est la couleur originale.
Enfin,
voilà, c'est la couleur de la PlayStation. Donc, alors ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est le 19 décembre sorti. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un tirage très limité. Il y a un peu plus de 10 000 exemplaires tirés dans le monde en tout. Donc, c'est relativement peu. Et en France, il y aura uniquement 500 exemplaires qui seront commercialisés à la boutique chez Colette.
Ce qui est très, très cohérent avec le début de l'histoire. On parlait de ce côté PlayStation. Qui veut être branché, brancher.
Hype et
ils vont dans le magasin tout pourri le plus branché de Paris.
C'est cohérent. Donc 500 exemplaires, ça va partir très vite, à mon avis. Il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, voilà. Donc, encore une fois, les 20 ans de la machine, c'est à célébrer. Et puis, voilà. Enfin, moi, on a plein de souvenirs. Enfin, moi, les Resident Evil,
les Tomb Raider.
Tomb Raider aussi qu'on a découvert, le premier Tomb Raider. Je crois qu'il était sorti sur Saturn avant, mais c'est sur PlayStation qu'on l'a fait.
Et Tekken 3.
Et Tekken.
Moi, je me rappelle, j'avais une Saturn. J'ai revendu ma Saturn pour acheter une PlayStation
Virtua Fighter,
pour Tekken 3.
Mais Tekken 3 en plus.
Parce que j'avais Virtua Fighter sur la Saturn. C'était chiant, c'était réaliste.
Mais dès Tekken 2 déjà était une tuerie. Et je me rappelle que le 3, il y avait des rumeurs qu'il ferait peut-être une extension.
Ouais, mais il y avait Eddie dans Tekken 3.
Avec les mouvements, etc. Donc ça tuait. Donc voilà, ça c'était les 20 ans de la PlayStation, un monument. La news, le flash Cinemaware de la semaine, il y en a toujours un. Je vous avais parlé de Wings qui avait réussi son Kickstarter. Rocket Ranger qui a été lancé il n'y a pas longtemps, qu'on soutient évidemment tous. Et puis là, on a eu l'annonce là cette semaine. Alors, c'est feu de tout bois chez Cinemaware. Ils donnent tout en ce moment. Ils viennent de nous annoncer que l'année prochaine, ils allaient lancer la publication. Alors, attendez, suivez bien, c'est compliqué. La publication de la version Genesis de It Came From the Desert, un de leurs hits Amiga. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être la publication physique d'un jeu qui n'est jamais sorti. Parce que, au début des années 90, Cinemaware, reposait beaucoup sur l'Amiga, se dit, bon, il faut qu'on aille sur les consoles de jeux. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur la NEC ou sur la Mega Drive? Ah, bah, on va sur la NEC, évidemment, mauvais choix. La NEC n'a pas fonctionné aux US. Ça les a pas aidés non plus à survivre. Et à côté, on sait que la Mega Drive a fait un carton. Et, ça leur a permis de sortir des choses intéressantes, hein. On a un It Came From the Desert en CD-ROM sur la NEC PC Engine qu'il faut relancer parce que il y a des scènes vidéo, tout ça. Enfin, c'est à voir. Et il y a eu des projets qui ne sont jamais sortis sur Mega Drive quand même. Ils avaient lancé des projets, dont un It Came From the Desert. Donc, adaptation de ce jeu Amiga mythique, de leur dernier gros tube, qui était donc adapté en version Mega Drive sous forme de jeu plus action aérienne, enfin en vue aérienne. D'accord. Plus genre shooter, qui n'est jamais sorti, qui était un peu un titre mythique, fantomatique. Il y avait des interviews qui étaient sorties il y a quelques années de développeurs de l'époque, dire oui, on a développé un jeu Mega Drive, il n'est jamais sorti. Des ROM ont circulé aussi à une époque pour émulateur, pour lancer quand même le fameux titre. Et là, donc Cinemaware va le publier en version physique, donc en cartouche avec une notice et tout ça. Et ça va sortir en 2015.
En quoi ?
Cartouche. Pour les vrais Mega Drive Genesis de l'époque, donc il faut avoir gardé sa Mega Drive l'enclencher. Voilà, donc ça fait plaisir.
Non, mais je reste sans voix. Alors, en fait, ils sortent un jeu pour toi, quoi.
Pas que pour moi, on est plusieurs à
suivre
de
trois.
Vous êtes trois, donc.
C'est vrai que ça a l'air anecdotique comme ça, mais ce titre, il est fantomatique depuis des années, et là, il va prendre corps, d'accord. Et ça va faire plaisir.
Il y a des gens qui. Non, mais ça fait plaisir, c'est le passé de le.
Et encore une fois, moi, je vous invite vraiment à relancer la version CD-ROM, ça vaut le coup. Et puis là, je finis sur Broken Edge, on a enfin une date de sortie pour le deuxième épisode, la suite du fameux jeu de Tim Schafer, a priori, sortirait enfin début 2015.
Il arrive pile au moment où on aura tout oublié du premier.
C'est un peu le risque, ça va bientôt faire un an. Donc,
il était bien le premier.
Mais ouais, j'ai bien aimé, super joli, super univers, mais bon, c'est un peu tardé. Donc là, en tout cas, début 2015, on devrait avoir la fin de l'histoire, la deuxième partie, et voilà, on va suivre ça de près, évidemment.
C'était Silence on joue, on se retrouve la semaine prochaine.
Merci, au revoir. Mais bon, CinemaWare, tout ça, il fallait en parler. Je suis désolé, je parle plus d'émission.
Oui, alors bon, vous connaissez tous Twitch, avec donc ce système qui permet de regarder les vidéos.
Vous savez que je suis tombé dans Twitch.
Mais
c'est intéressant. Hein.
En fait, avec sur téléphone. Sur l'appli Twitch.
Ah ouais,
Twitch.
Mais là, tu vas un peu loin.
Non, mais c'est absolument. Moi, j'adore regarder des gens jouer.
Tu le regardes où, en général, par exemple ?
Chez moi.
Chez toi, d'accord.
Ouais, tranquille. Par exemple, dans mon pieu, machin, avant de me coucher, je regarde des gens jouer.
À quoi ?
Alors ça dépend. C'est les jeux, soit les nouveaux jeux qui sortent, je peux jeter un œil parce que toutes les grosses sorties et tout ça. Soit Hearthstone. J'aime bien jouer le côté pro gamer de joueur de Hearthstone. Est toujours très sympa. Et puis ça m'arrive un peu d'aller à droite à gauche. Je ne vais pas sur les MOBA parce que je ne comprends rien à ce que je vois à l'écran. Mais je sais pas. Je m'attendais pas du tout à tomber dans le streaming, enfin en spectateur de streaming. Mais je trouve ça très très.
Mais c'est un peu comme là-dedans en fait le.
C'est le fait qu'on a la même surprise que le joueur. Par exemple, dans Hearthstone, on voit ses cartes et tout ça. Donc, on peut se dire à un moment, qu'est-ce que je jouerai à sa place? Je réfléchis en fonction du jeu, de sa situation. Et lui, qui est vachement plus fort ou qui a une autre tactique, il joue pas la même chose. Enfin, c'est assez intéressant, il y a ce côté-là. Enfin, bref, ça n'a aucun rapport, mais.
Mais si, tout à fait. Ouais. Tout à fait, puisque maintenant. Donc il y a Twitch et un autre gros du secteur du jeu vidéo va se lancer en fait dans le streaming. Il s'agit de Valve qui en fait a intégré dans une bêta un système en fait qui s'appelle Steam Broadcasting qui permettra de regarder en fait les joueurs en fait de Steam.
Mais pour l'instant leurs jeux sont déjà sur Twitch et compagnie. Enfin leurs jeux à eux.
Non mais parce que pour broadcaster sur Twitch, il faut télécharger un client de d'accord. broadcast, configurer le machin pour l'envoyer sur les serveurs de Twitch. Et voilà, mais tu peux broadcaster tout ce qui passe par ton écran.
Oui, c'est ça. Oui, on est d'accord. Oui, tu balances.
Et en plus, tu peux broadcaster maintenant la PS4 et la Xbox One.
Et là, ça va être un réseau en plus, un nouveau réseau, un nouveau canal.
En plus.
Un nouveau canal, sachant avec la population de Steam qui est quand même pas négligeable. Voilà.
Et l'autre nouvelle qui n'aura échappé à personne, c'est une fuite, un écoulement. un écoulement qui est atterri en fait entre les mains du site Kotaku.
Oui, qui, toujours sur les bons coups.
Ah oui, voilà. Qui a révélé en fait quel serait le prochain Assassin's Creed, parce que voilà, maintenant il en sort un par an.
Depuis le début. Non, il y a entre l'un et deux.
Il y avait eu deux ans entre l'un et deux.
Mais c'est tout.
Il y a eu
deux ans.
Donc c'est pas vraiment une surprise. C'est pas vraiment une surprise, ni même le thème, ni même vraiment le thème. Enfin, l'endroit dans lequel ça va se passer, c'est-à-dire Londres au 19e siècle. Ce Assassin's Creed se rappellera Assassin's Creed Victory, V comme voilà Victory comme la période victorienne.
Voilà, la période victorienne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cette période à Londres à raconter. Enfin voilà,
Londres finalement. Si on l'a déjà traversé dans les gateways, etc. Mais il y a des choses à voir dans Londres. Mais par contre, c'est super tôt comme sortie d'info. En général, on les a plus tard, les annonces de titres. Enfin là, c'est pas une annonce formelle.
Non, c'est pas une annonce formelle.
Mais je pense que c'était pas prévu.
Ouais.
Le com des coms de la semaine dernière avec une petite remarque, il n'était pas le seul de Roger Hanin, content de vous retrouver, gros souci technique sur ce numéro, le gain audio est inhabituellement faible, donc beaucoup de gens qui nous l'ont dit, ce sera corrigé dès cette semaine, enfin je suppose que vous l'avez déjà compris, vous l'entendez dans vos casques là, que c'est pas la même chose, voilà, il y a eu un petit souci technique, on s'excuse, et puis le gros morceau de la semaine dernière, c'était bien sûr Assassin's Creed Unity, et il y a eu beaucoup de réactions, dont celle de Étienne 3, qui dit « Je comprends et partage entièrement la déception de Derwan, mais c'est un peu la marque de fabrique de la série, des décors impressionnants, du gameplay intéressant mais répétitif et une histoire complètement indigente. Les Assassin's Creed sont toujours frustrants de ce point de vue pour moi parce qu'une petite musique me chante très fort à l'oreille à chaque seconde que les développeurs s'adressent à quelqu'un d'autre que moi en y jouant, la cible semblant plutôt être une sorte d'ado inculte qui existe au moins autant dans la tête des directeurs marketing que dans la réalité, vaguement amateur de violences stylisées, de complots, de sociétés secrètes et du gros Da Vinci Code prédigéré, autant dire le degré zéro de la culture historique et de la littérature. À la base, ils ne peuvent pas se débarrasser totalement de la trame méta portée par ce pauvre Desmond au charisme de beignet. Non, mais en fait, j'ai gardé ce passage à cause du charisme de beignet. J'aime bien l'image de charisme de beignet. Sinon, ce n'est plus Assassin's Creed, il faudrait changer de licence. Donc, quel que soit l'épisode historique, cette trame reposera forcément sur son conflit intertemporel pénible, tellement il est invraisemblablement débile entre pseudo-assassins et pseudo-templiers. De ce point de vue, la série est donc génétiquement, entre parenthèses, cette histoire d'ADN, qu'est-ce concept débile, là aussi, condamnée à être une série complètement pourrie sur le plan scénaristique et en plus irrémédiablement à deux neurones foireux du début à la fin. Non, mais j'aime bien le côté radical. Ubisoft dispose pourtant de tous les outils techniques pour parler et faire vivre l'histoire avec un grand H et nous livre des montagnes gigantesques et impressionnantes accouchant de souris minuscules à chaque épisode. Le jeu vidéo AAA ne sait pas encore traiter intelligemment de l'histoire et ou de la politique. Il faut se tourner vers des jeux comme Papers, Please ou ce qu'a tenté de faire Ubisoft Montpellier avec Soldats Inconnus, ce qui prouve bien que la pauvreté scénaristique de Assassin's Creed est un choix délibéré des gros ponts de Doudi.
Ils n'ont pas tenté, ils l'ont fait.
Et pas d'un manque de scénariste capable de s'adresser à l'intelligence et à la sensibilité des joueurs. C'est une réaction longue au moins et même radicale, mais j'aime bien cette radicalité. Voilà, donc le com des com sur les excellents forums de Silence en Joue, bien sûr, que vous pourrez trouver sur écran.libération.fr. Et on commence avec un petit retour dans le passé, à l'époque où... le synonyme de modernité, c'était Doom.
Un petit peu après, quand même. Quelques années après.
Ces jeux-là, on les appelait des Doom-like.
Oui, les Doom-like. Ou les Duke Nukem-like, mais ça, c'est moins.
C'était trop long. On les appelait les Doom-like et c'était Shadow Warriors. Moi, c'est marrant parce que moi, je m'en souviens de Shadow Warriors.
Attention, ce n'est pas Shadow Warriors, c'est Shadow Warrior. C'est complètement autre chose, c'est un jeu de baston, machin.
C'est vrai, Warrior.
Oui, attention, on parle de ninja, mais non, c'est important, il faut...
Tu as raison, mais c'est vrai que elle faisait partie de cette série de FPS post-Doom, post-Duke Nukem, qui essayait différents univers. Moi, je me rappelle, il y en avait un autre où tu jouais un vaisseau spatial, je sais plus.
Ah, c'est Descent ?
Descent.
Qui filait la gerbe parce qu'on était vraiment dans un déplacement multidirectionnel.
Voilà, il y avait Descent et Shadow Warrior, c'était vraiment les deux petits qui n'ont pas connu un succès d'estime.
Parce que, il faut se rappeler, en 97, 3D Realms, c'était le studio de l'époque, c'est un peu les rois du monde les mecs, parce qu'ils viennent de signer Duke Nukem qui sort 2-3 ans après Doom et qui explose Doom en termes de créativité, d'ambiance, de déconnade. 3D Realms, ils explosent tout ça, c'est-à-dire que Doom, on adore l'univers mais c'est plutôt sérieux, c'est plutôt glauque. Duke Nukem, c'était carrément c'était blindé de références au cinéma, à la pop culture, etc. Et surtout avec plein de nouveautés comme l'interaction avec le décor, etc. Donc Duke Nukem en 97, 96 il explose tout. 97, donc 3D Realms qui va à fond, il a un moteur qui marche bien à l'époque. Il lance un autre titre sur le même moteur, sur le même bâti technique, où là ils partent sur ils confirment le côté série B et ils vont encore plus loin. C'est-à-dire que dans Shadow Warrior, on n'est même plus ce personnage de Duke Nukem qui explosait des aliens. On va vraiment dans de la pure série B. Même à l'époque, hein, en 97, quand il sort Shadow Warrior, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment un sous Duke Nukem à l'époque, parce qu'on retrouve vraiment le même mécanisme, le même moteur, etc. Mais qu'un univers complètement barré. On incarnait à l'époque donc Lo Wang, qui était un mercenaire qui devait retrouver un katana magique pour combattre des forces démoniaques. Oula.
Moi, je trouve que c'est pas mal.
Ah, c'est pas mal comme pitch,
il y a une promesse.
Ça fait vraiment quatrième de couve d'une jaquette VHS de l'époque qu'on allait louer en disant c'est bon, là on a trouvé la perle et c'était souvent une
Le ninja blanc, Michael Dudikoff.
Mais complètement, on est en plein là-dedans. On est quand même en 97, donc bon.
Il est tard.
C'est un peu enfin, c'est du post du kick-off vaguement digéré.
Il est déjà vieux là.
Mais bon, ça marche bien en plus. Donc voilà, le jeu se fait une réputation, mais il reste quand même dans l'ombre de Duke Nukem. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on parle de 3D Realms, c'est Duke Nukem.
Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais pas trouvé quand même hyper maniable, surtout le combat au katana.
Moi, je l'ai relancé, c'est le même moteur que Duke Nukem. Ça marche pareil. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs qui changent. Il y a des bateaux, il y a des trucs comme ça. Il y a les lancements de Shuriken, ça qui était quand même pas mal classe. Et c'était surtout super saignant. Enfin, c'était un délire, une orgie de sang à l'écran. Bref, ça pixelisait dans tous les sens. C'était du bonheur. Les années passent, on oublie souvent complètement Shadow Warrior, et je crois que c'est l'année dernière, le jeu sort sur PC, sur Steam, une version, un remake en fait, hein, d'un studio dont je n'ai plus le nom, je ne l'ai pas noté, mais bon, c'est pas grave. Un studio se lance dans le remake, et ça vient de sortir sur console, donc sur Xbox One et sur PS4. Et donc, alors l'idée c'est de revoir, enfin de proposer un remake total de l'univers Shadow Warrior, donc pour les quelques-uns qui s'en rappellent, c'est plutôt rigolo de se replonger là-dedans. Donc encore une fois, on incarne ce personnage qui est armé d'un sabre. C'est très important parce que le sabre c'est vraiment l'élément différenciant par rapport à un Duke Nukem, et de se lancer donc dans cette histoire de katana magique. Et alors là vraiment on accumule tous les clichés de série B, c'est-à-dire qu'on a tous les personnages clichés qu'on rencontre, etc. Et on a surtout ce personnage d'un démon qui va nous suivre, qu'on va récupérer au début du jeu et qui va être un peu un sidekick. C'était à l'époque aussi à la mode ça, les films avec un sidekick, un partenaire qui avait toujours la bonne blague au bon moment. Et en fait on va traîner pendant tout le jeu ce démon qui s'appelle Oji et qui est un expert de la vanne de série B, hein, qui me lâche toujours des petites blagues pendant les combats, etc.
Il
commente les combats, il se moque un peu de nous si on a plus beaucoup d'énergie. C'est vraiment, c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance, il y a une ambiance délétante pendant tout le jeu et ça marche bien. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on est donc sur un jeu qui est complètement recréé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un moteur actuel, entre guillemets, qui marche plutôt bien, qui est assez rapide, assez péchu. Mais par contre, on retrouve vraiment les codes de gameplay de l'époque, c'est-à-dire que c'est quand on se lance dans Shadow Warrior aujourd'hui, on a vraiment l'impression de se lancer dans un jeu, dans un FPS des années 97 en termes de gameplay. C'est-à-dire que c'est brut de décoffrage, c'est rapide, c'est speed, et il n'y a pas de furiture. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc encore une fois, la particularité, c'est qu'on a ce sabre. On flagelle les ennemis avec, on les découpe. C'est-à-dire qu'il y a tout un art du découpage d'ennemis. C'est super sanguinolent. Et ça fait plaisir. Donc, on a les armes à feu, on a les shurikens. Et c'est bon aussi. On retrouve vraiment les codes de l'époque. Donc, ça fait plaisir. Il y a un rythme frénétique. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Ça bastonne tout le temps. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête dans des longues discussions ou des énigmes. Les énigmes, en général, c'est de casser un pot de fleurs pour ouvrir une porte ou trouver un bouton sur lequel appuyer. Enfin, vraiment à l'ancienne. À la Duke Nukem, c'est bon, quoi. On avance, on frite. On peut exploser les véhicules avec un coup de sabre, on se sent, voilà, on est le vrai Shadow Warrior et on y va franchement. Alors c'est évidemment un peu répétitif, c'est-à-dire qu'on a le gameplay de l'époque, donc moi je conseille d'y aller à petite dose, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un jeu d'arcade pur jus de l'époque. Il faut pas en abuser, il faut pas y jouer 10 heures d'affilée, ça peut piquer les
yeux.
Déjà
tu l'as fini.
j'ai pas mal avancé, mais vraiment je conseille les petites doses, hein, y jouer une heure de temps en temps, ça fait du bien entre des FPS plus élaborés actuels, en monde ouvert, etc. C'est bon de se relancer dans ces jeux un peu plus linéaires mais qui fritent et qui y vont. Il y a une générosité, des gerbes de sang partout, c'est complètement décomplexé. Et ce qui est marrant quand même quand on relance Shadow Warrior aujourd'hui, c'est de se dire que finalement c'était un outsider ce jeu. Il est beaucoup moins connu, il était limite oublié, et finalement ce remake, il est pas prétentieux mais il est super cohérent avec la promesse originale. Et finalement ce remake, il est bien plus honnête quand on y pense que le Duke Nukem qu'on a subi il y a, je sais plus, 3-4-5 ans là, qui était l'ombre de Duke Nukem, qui était honteux, qui a abîmé l'image qu'on avait, le souvenir de Duke Nukem. Là au moins ce Shadow Warrior, il est humble, il est pas prétentieux, et voilà, il est il répond à la promesse originale. Et on retrouve vraiment ce côté FPS à l'ancienne qu'on a un peu oublié, hein, de se balader dans les niveaux, de trucider des démons par dizaines, ça gicle et tout ça. Donc, alors, le seul truc, moi, que je trouve dommage, c'est que le jeu s'ouvre sur une vidéo du jeu original, donc ça fait plaisir. Moi, et il est pas dedans. Il y a pas l'émulation du jeu PC de l'époque. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir les deux versions.
Un comparatif.
Ouais, parce que voilà, c'était un bon petit jeu. Et bon, on peut le retrouver, je crois qu'il est sur Steam, le jeu original aussi. Et voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir, c'est un jeu décomplexé, moi j'aime bien. Voilà, une trentaine d'euros sur les consoles next-gen et sur PC, sur Steam aussi, voilà.
C'est ça, maintenant sur PS4 et sur Xbox One.
Exactement.
Wow.
Et je recommande, ça défoule.
On a bien compris.
Ouais, ça
Shadow Warrior.
Voilà, c'est cathartique, hein, maintenant parler ça soulage.
On a senti,
je vais faire un tour, je reviens.
On a senti qu'il y a un truc qui est sorti là quand même. Hein, c'est
pardon.
On change complètement d'univers. Pas forcément pour le mieux, enfin en tout cas pour le plus joyeux, plutôt pour le plus glauque, avec le retour d'Isaac dans Binding of Isaac Rebirth.
Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through the door and threw himself down into the unknown depths below.
Je me souviens bien de ce petit bijou créé par donc Edmund McMillen dans la lignée, dans la suite de Super Meat Boy et voilà un peu qui restait un peu dans la production old school, enfin la revisite du rétro gaming après donc le jeu de plateforme difficile où il faut tout apprendre par cœur, il s'aventurait un peu dans le donjon à la Zelda roguelike, c'est-à-dire on commence une aventure et elle s'arrête quand on meurt. Point final, c'était Binding of Isaac qui est revenu, qui est de retour. Bon, ils ont revu le moteur, il y a un mode multijoueur coopératif local, il y a quelques petites variations de gameplay pour le rendre plus accessible, mais voilà, on peut rejouer ce petit garçon. Joël, tu y as passé beaucoup de temps.
Oui, beaucoup, énormément de temps. Alors je me souviens qu'autour de cette table, Pipo et toi, vous en aviez parlé avec beaucoup de ferveur, d'enthousiasme, et je regrette d'avoir prêté une oreille peut-être un peu trop distraite à l'époque. Du coup, je le vois sur PSN, je me dis ah tiens, je vais le prendre, je vais l'essayer. Et finalement, mais vous avez vraiment raison quoi, c'est vraiment c'est une expérience que je trouve absolument ahurissante. Alors je l'ai commencé sur PS4. Pour le terminer, en fait, sur PS Vita, finalement. Et je n'y joue que sur PS Vita, contre les mains, quoi. Sur PS4, je trouve que c'est pas super agréable, en fait, de jouer avec un gros écran, alors que le jeu est assez, entre guillemets, minimaliste. Donc, je trouve
ça, que je vois pas trop. Il y a une pièce à l'écran, donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir surdose d'informations.
Voilà, je vois pas trop l'intérêt. Et alors vraiment dans la poche, quoi, sur la PS Vita, c'est vraiment un bonheur. Alors, donc, j'y joue vraiment. Chaque soir, je me prends aussi ma petite dose de cris, de hurlements, de pleurs,
de larmes.
Pour ceux qui connaissent pas donc Binding of Isaac, on dirige un garçon qui a été puni par sa mère et qui se retrouve en fait à arpenter des espèces de caves et de donjons qui se situent au sous-sol. Le but du jeu, le faire sortir en fait de cette cave, de ses sous-sols, et le faire triompher de sa mère.
Le boss final.
Le boss final.
Voilà.
Ah, il y a quand même un.
Voilà.
Ouais.
Alors, on meurt beaucoup, ce qui n'est pas du tout une expérience désagréable. C'est vraiment du die and retry, comme on dit. Parce qu'à chaque fois, donc, les niveaux, à chaque fois qu'on meurt, en fait, les niveaux changent.
Ils sont générés.
De manière aléatoire. Ouais. Donc, c'est jamais la même configuration.
On est vraiment dans le roguelike de base, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle partie, le jeu est complètement différent.
Donc le côté aléatoire, et aussi le côté complètement aléatoire des objets, des éléments qui vont servir en fait au petit Isaac pour triompher des ennemis. Alors c'est vraiment des objets de dingue, je crois qu'il y en a qui ont été rajoutés en fait du coup dans cette version Rebirth. Ça va de l'épingle à nourrice qui permet de tirer des larmes plus alors je me rappelle pas exactement parce qu'il y en a tellement et c'est tellement foisonnant, l'épingle à nourrice je crois qui permet de tirer des larmes plus puissantes ou un espèce de masque de chat qui permet d'avoir 9 vies et tous ces éléments, ce qui est fantastique c'est que tous ces éléments, tous ces objets qu'on trouve comme ça au fur et à mesure se combinent entre eux. Donc on n'a jamais le même personnage, jamais les mêmes capacités au fur et à mesure.
C'est-à-dire qu'il y a un objet magique par niveau, donc un niveau...
Ah, il y en a même plus. On peut même en trouver plus parce qu'il y a vraiment il y a des passages secrets qu'on peut faire, qu'on peut trouver en faisant exploser des bombes. Alors le côté glauque, moi j'adore. Quoi. C'est la
signature du jeu. Hein, c'est celle-là. Hein.
Et c'est un vrai bonheur. Effectivement, tout rappelle une espèce d'enfance moisie entre les étrons qui parlent et les molaires qui saignent. Enfin, c'est vraiment.
Oula. Ah oui, c'est vrai. Les enfants qui pleurent. Il y a quelque chose.
Il y a vraiment un truc, voilà,
de malsain
qui touche vraiment. Une enfance moisie, quoi. Ouais, voilà. Rappelez-vous,
le vent du rêve, là. Hein, voilà. Du rêve, c'est...
Et donc, apparemment aussi dans Rebirth, il y a aussi des boss qui ont été ajoutés. Ces boss sont, il n'y a pas seulement la mer, parce qu'à chaque fin de niveau, il y a un boss, il y a Monstro qui rebondit partout, il y a, je sais plus, ils ont des noms tous plus extravagants que les autres, une espèce de deux sœurs jumelles qui éclaboussent de sang. Beaucoup de boss dont on apprend en fait un petit peu au fur et à mesure voilà les patterns. Vraiment un bonheur quoi ce jeu
et un gameplay original. C'est vrai que par exemple les boss s'inspirent aussi de pas mal de jeux d'arcade, que ce soit c'était quoi ces centipèdes avec
Snake, ce genre de truc.
Et ce jeu il a un pédigré intéressant visiblement, l'équipe qui a bossé dessus.
C'est ce que j'ai dit en introduction, ouais, hein, Edmund McMullen c'est quand même un des papas de la scène indépendante, un des pères fondateurs,
un des premiers gros succès,
voilà. Donc très bon, enfin vraiment très bon, superbe expérience en plus. J'en suis vraiment une trentaine d'heures quoi, c'est vraiment facilement.
Une bonne occasion de redescendre dans la cave du petit Isaac et de se battre avec les larmes.
Et sur PS Vita, vraiment, je trouve que ça se prête bien au petit écran.
Alors, je ne sais pas s'il est encore en jeu gratuit sur PlayStation
mais
Plus.
Ruez-vous dessus. Bon, dommage, on ne peut pas utiliser l'écran tactile, il ne sert un peu à rien, mais bon, tant pis.
C'est pas bien grave. Bon, allez, on s'attaque maintenant au gros morceau, BioWare, Electronic Arts, le retour, le troisième épisode d'une licence qui aurait pu mourir au deuxième. Parce que le Dragon Age 2 était franchement pas très très bon, donc on l'attendait pas forcément, ce Dragon Age Inquisition. C'est une raison de plus d'être surpris dans le bon sens du terme. Dragon Age Inquisition. Là, c'est une musique avec la musique grandiloquente, celle du trailer, trailer officiel. Alors, ils mettent toujours des musiques très modernes, très rock. Pour présenter, c'était un des trailers. On se souvient des premières images qu'on a vues, notamment, je crois, à l'E3 2014, où ils avaient montré un gros trailer, mais c'était de la cinématique pure. Donc, on sait très bien qu'il ne faut s'attendre à rien à partir de ces informations-là. On savait juste que Dragon Age était le troisième épisode, que c'était BioWare derrière, c'était le système de jeu de rôle BioWare, très connu pour, on a un héros, des compagnons, avec du Mass Effect, enfin voilà, c'est Mass Effect et Dragon Age qui utilisent un peu le même système, qui ont en commun ce système-là de jeu de rôle.
Attendu, parce que c'est leur première apparition sur les nouvelles consoles, je crois, à BioWare. C'est leur premier...
Sachant qu'il est aussi disponible sur les consoles console de génération d'avant, je crois.
Alors, je sais pas ce que ça donne. Mais...
Donc, ce Dragon Age Inquisition, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi vos premières impressions, Joël?
Moi, ouais, mes premières impressions, au départ, elles sont pas bonnes. C'est-à-dire que j'ai vraiment au début, le prenant en main, je trouvais que les personnages étaient pas plutôt laids. C'est-à-dire que je trouve que la direction artistique était assez terne, assez morne, et des personnages qui sont vraiment assez figés. J'étais un peu agacé aussi par le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de classes. En fait, on se retrouve seulement avec trois classes, le mage, le voleur.
Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de soigneur. Il n'y a pas de soigneur.
Donc, bon, j'étais un peu circonspect. D'autant plus que je trouve que l'animation des personnages est pas très belle, non seulement au niveau facial, mais qu'au niveau des quand ils sont la troisième, quand on les joue la troisième personne, je trouve que leurs mouvements sont pas très sont un peu saccadés, pas très jolis. Donc au départ j'étais un peu, et puis après l'histoire, cette espèce de, alors moi j'incarne un Kurani.
Oui, ouais. Avec les cornes.
Voilà, ouais. Avec les cornes. Voilà, j'incarne un Kurani vraiment très laid. Et
mais c'est ça aussi, tu peux pas t'identifier. C'est, bon, le mien aussi,
mais...
il est là. Hein,
mais non, mais j'avais envie de changer parce que les elfes, les nains, les humains, au secours, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Je me suis dit, on retombe encore dans les poncifs de l'heroic fantasy. Et finalement, en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'il y a véritablement, j'ai découvert vraiment une profondeur, non seulement une profondeur dans le jeu, mais aussi une échelle, une taille, un monde très vaste. Ce dont on ne s'aperçoit pas du tout au début. Et je me suis vraiment laissé conquérir par ce jeu, non seulement par le rythme, parce que je trouve qu'il est très bien fait entre, donc c'est un jeu de rôle, on discute, on a cette route de dialogue qui permet de choisir ses réponses et de satisfaire notre interlocuteur ou pas. Personnellement, j'essaie de les satisfaire, en tout cas mes compagnons et
Tu dragues tout le monde.
Oui, exactement. Voilà. En fait, je dis oui à tout pour choper.
Je veux pécho,
absolument. Donc,
c'est la signature BioWare qui est exceptionnelle. Voilà. Toutes les discussions avec tes camarades une fois que tu es de retour à ton camp de base. C'est-à-dire, on est dans le système BioWare qu'on connaissait sur Mass Effect, qu'on connaissait dans les premiers Dragon Age. C'est-à-dire, une fois qu'on est de retour au camp de base, tous nos compagnons qui nous ont accompagnés sont disséminés un peu partout dans le camp, et là on peut aller parler, blablater, faire connaissance, dragouiller, se prendre des râteaux ou alors taper dans le mille. C'est une des signatures, avec en plus ce qui est encore une fois la signature BioWare, mais qui fait tellement de bien, c'est que on s'en fout du genre, c'est-à-dire si tu joues une femme, tu peux draguer les hommes et les femmes, si tu joues un homme, tu peux draguer les hommes et les femmes. Il y a même, mais un peu plus loin dans le jeu, alors malheureusement je peux en parler que parce que je l'ai vu en vidéo, pas parce que je l'ai joué, mais il y a un personnage transsexuel, ce qui est quand même aussi une première. Ça fait du bien d'avoir ce type d'approche dans le jeu vidéo, et c'est une signature de BioWare qui est tellement tellement rafraîchissant.
Alors les personnages, parlons du groupe, parce qu'effectivement au départ on part avec un groupe, je trouve que c'était vraiment des boulets, quoi, c'est-à-dire
Varys, Cassandra et
tu les perdais, non, c'est ça, et tu
non
pas,
je les ou... perdais pas, mais c'est-à-dire tu te diriges, tu te cognes à eux, ils sont toujours dans ton chemin, c'est un petit peu énervant, quoi, c'est-à-dire au départ, et même par la suite c'est quand même un petit peu agaçant. Et finalement, donc on apprend à faire connaissance avec eux, voilà, on discute, pendant qu'on marche, pendant qu'on cueille qu'on mine du fer, ils sont en train de bavasser, de raconter leur vie, alors on prête une oreille plus ou moins attentive. Donc on commence à se familiariser avec ce groupe qui grossit de plus en plus, parce qu'au fur et à mesure de l'aventure, on rencontre d'autres personnages qui vont se joindre à nous. Et pour en revenir à ce que je disais, j'aime bien cet équilibre qu'il y a, ce rythme dans le jeu entre la partie, on va dire, scénaristique, qui est très intéressante, enfin que je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'on découvre le monde, sauf pas à nous, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est un jeu qui demande l'attention du joueur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'en imprégner pour essayer de comprendre où on est, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les factions en présence, qu'est-ce qui se passe, qui sont les héros. Je trouve qu'il y a une part de, comment dire, de C'est un jeu qui demande une attention du joueur pour ça, de savoir, voilà, de prendre le temps de lire, d'écouter, et ça j'apprécie beaucoup. Et donc c'est contrebalancé aussi par des, voilà, par un système de combat que je trouve plutôt bien foutu, c'est-à-dire un système de combat en fait, qui encourage un peu la stratégie en mettant, en fait, en permettant de faire pause dans le lors du combat, d'avoir une vue aérienne et de pouvoir donner, en fait, des ordres à chacun de ses compagnons, sachant qu'on peut incarner aussi chacun de ses compagnons et donc les diriger vraiment au combat à la troisième personne.
Alors ça a l'air, c'est vrai que c'est bien, enfin quand on découvre le truc, c'est assez impressionnant. Alors moi par contre dans un peu le fracas des combats, j'avoue que moi je contrôle mon personnage, l'intelligence artificielle au niveau normal, j'ai l'impression au niveau de difficulté normal, dans les niveaux de difficulté inférieurs on diminue l'importance de l'intelligence artificielle, donc il faut vraiment les diriger. Au niveau de difficulté normale, voilà, ils font le taf derrière, les magiciens balancent leurs sorts, les voleurs balancent leurs flèches, les guerriers vont au contact. Finalement, moi je suis plutôt dans le temps réel. Je sais pas toi à terme.
Ah, moi j'aime bien faire pause, voilà, regarder un petit peu qui fait quoi.
Ouais, ça
quoi. Moi j'aime bien
prendre la main, oui,
je préfère
prendre de la hauteur et physiquement on prend de la hauteur parce que la caméra prend de
la hauteur.
Juste
de la hauteur. Mais alors juste pour revenir, finalement donc au départ on se trouve avec ces trois classes, donc on se dit ah c'est bien maigre, où est le prêtre, où est je sais pas moi, où est la sorcière. Ouais. Et finalement il y a un système de... En fait, ces trois classes sont divisées chacune en quatre branches qui sont plutôt intéressantes, qu'on peut justement explorer. Du coup, le mage peut davantage soigner et, je sais pas, le guerrier devenir davantage quelqu'un de soit d'offensif, soit
il
va...
Il peut soigner, le mage ?
Ah oui, absolument.
Ah bon ?
Ah oui,
dans quelle branche ?
Des sortes de soins.
Ah
oui. Je sais plus comment elle s'appelle, cette branche.
Ah oui, la branche d'esprit, je crois qu'il y a un petit sort de
heal.
Mais tout petit, hein.
Tout petit.
Franchement, le soin, c'est les potions de régène. Hein. De toute façon, c'est la base du soin. Juste pour parler un peu du scénario, s'arrêter un petit peu sur ce détail-là. Donc, on est dans l'univers de Dragon Age. Alors, c'est assez marrant parce qu'on voit très très bien qu'il y a aujourd'hui, dans le jeu de rôle occidental, voilà, il y a Elder Scrolls et Dragon Age qui finalement commence à être un challenger très très sérieux à l'univers Elder Scrolls, qui est un univers aussi balèze, enfin cohérent, très développé et tout ça, et là Dragon Age aussi développe son propre univers à base de d'une opposition entre les mages, le cercle des mages, et la chanterie qui est plutôt le côté religieux. Donc il y a cette opposition entre les deux grands ordres de l'univers de Tedas. Là dans le jeu est séparé en deux régions, hein, qui s'appellent Ferelden et Orlais. Et donc voilà, il y a les cercles des mages, les templiers, enfin et les templiers qui sont au service normalement de la chanterie et qui ont fait un peu sécession. Enfin voilà, donc c'est un peu le bordel, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où on retrouve aussi le savoir-faire de BioWare qu'on a vu dans Mass Effect, c'est d'instiller comme ça de la politique, des trahisons, des grandes manœuvres politiciennes, des complots, des choses comme ça, pour complexifier finalement l'univers scénaristique. Et pour le coup, là, dans cet épisode, c'est une vraie réussite. On va te laisser, Patrick, tu as eu aussi...
Oui, alors je pense que j'ai pas autant d'heures que vous de jeu, donc moi j'ai commencé à... Moi j'en attendais pas grand chose, hein, moi du nouveau Dragon Age, hein, franchement j'ai pas... Et j'étais plutôt surpris dans le bon sens, hein. Je trouve que le début de l'aventure, c'est vrai qu'on a un peu une image en général dans les RPG de combien de fois on a eu des débuts très gnangnans qui prenaient... Là je trouve au contraire on est très vite dans le rôle de ce personnage qui est justement déraciné, on sait pas trop, finalement c'est un peu nous, on est catapulté comme ça dans cet univers, comme tu disais, qui a sa texture depuis le 1, le 2, l'extension du premier aussi, enfin il y a eu... Mais même si on n'a pas joué, à la limite, celui qui n'aurait pas joué au précédent, il y a aussi tout l'intérêt de découvrir cet univers qu'on sent.
Il peut très bien se jouer indépendamment.
Ouais, complètement, des précédents, ouais, complètement. Ouais, ça, c'est sûr que. Surtout que voilà, le deuxième n'a pas laissé un souvenir impérissable. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que le début marchait bien. Parce qu'on est vraiment embarqué. On sent que ce personnage qu'on incarne va avoir une importance capitale. Parce qu'il a ce pouvoir étrange qui fait qu'il est rendu suspicieux aux yeux de tout le monde. Il est vraiment un peu au centre de toutes les questions sur l'avenir du royaume, de ce qui va se passer, etc. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi le fait que cette menace soit visible quasiment tout le temps à l'écran. Ces colonnes de
brèche.
Ouais, la brèche. Combien de fois aussi dans les RPG, on a souvent ces traditions un peu orales du danger qu'on voit pas toujours forcément tout de suite. Là, je trouve que tout de suite, il y a un côté cinématographie visuelle mis en scène. Concrètement, on lève les yeux au ciel, on voit tout de suite ce qui se passe, on voit qu'il y a un truc qui va pas du tout. Et il y a une menace omniprésente sur le terrain. Et puis moi, la dernière chose qui m'a plu aussi, c'est le côté monde ouvert, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, c'est pas un vrai monde ouvert, c'est qu'on n'est pas dans un bac à sable où on va actionner des choses à droite à gauche.
Non,
on
non, est dans un monde. Il y a quand même des zones.
Il y a des zones exactement à débloquer, mais on a une sensation
qui ressemble presque à des mondes ouverts. Chaque zone ressemble presque à un monde ouvert en soi. Enfin, les marches solitaires
mais,
sont énormes.
Mais c'est vaste et pareil, j'ai toujours eu moi c'est un peu cette image d'Épinal du RPG où bon bah on va d'un point 1, on continue comme ça. Et là, non, je trouve qu'on a vraiment, en tout cas, cette sensation d'être libre et d'explorer un peu cet univers qui est super joli en plus graphiquement, qui a vraiment, même si comme Joël, j'ai même moi, des réserves sur l'animation, sur le choix que les personnages sont assez
mais même sur
la direction
artistique hein, globalement, je trouve que ça trouve un peu
ça m'a moins
sur les
choqué
paysages.
Je trouve que
les paysages sont
les décors sont beaux, enfin il y a vraiment un cachet, et je trouve que là ce côté monde ouvert fait qu'on se sent pas bridé, qu'on part comme ça à l'aventure avec ces personnages qui nous suivent, et voilà, on enclenche très vite les missions principales. Il y a pas mal de il y a beaucoup de trucs qu'on voit apparaître sur la carte. Il y a beaucoup de missions secondaires plus ou moins intéressantes, on en a un petit peu causé avec Arwan avant l'enregistrement. Il y a beaucoup de missions un peu, mais comme tu disais, c'est vrai que ça fait appel à ce qu'on connaît du MMORPG en général, avec des missions très.
Parfois, on a l'impression
d'aller chercher mon chat qui est en haut d'un arbre.
Parfois, on a cette impression-là.
Ah bah récolter les quêtes à un endroit, récolter toutes les quêtes à un endroit, et puis les résoudre au fur et à mesure de son périple.
Ouais.
On est vraiment dans la logique de MMO et surtout les quêtes un peu insignifiantes.
Genre
tuer
des bouquetins.
Ou aller chercher une potion pour sauver la mamie qui est malade. Enfin, mais finalement, ça fait partie des codes de ce genre-là et. Il faut jouer le jeu. Mais
moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté, parce que on est vraiment dans Dragon Age s'inspire de Skyrim, voilà la référence jeu de rôle de l'univers précédent, parce qu'on se rappelle des deux premiers Dragon Age, surtout du premier qui était exceptionnel, mais il n'y avait pas cet aspect monde ouvert. Il y avait des maps avec c'était très très linéaire avec des chemins. Et là, voilà, ils se sont dit, bah voilà, il y a Skyrim qui a posé quelque chose dans le RPG occidental. Il faut pas qu'on reparte sur ce qu'on a fait. Il faut qu'on aille voir du côté de ce qu'a fait Bethesda. Et en même temps, ils ont quand même gardé quelque chose de propre à Dragon Age, un peu plus linéaire. C'est-à-dire qu'on nous tire quand même un peu plus par la main que dans un Skyrim même avec tout le respect que j'ai pour Skyrim et tout l'amour que j'ai pour le jeu de Bethesda.
C'est ce qui est aussi dans Skyrim, c'est le côté ouvert.
Mais on est complètement largué. Là, on est quand même, on a quand même un but.
Il y a l'écriture chez BioWare qui nous rattrape, et il y a ces dialogues.
Pas toujours très bons les dialogues.
Mais des fois, si quand même.
Non, mais marche bien dans les réponses, dans le tac au tac, les échanges sont intéressants.
Parfois, c'est un peu répétitif, parfois un peu mal écrit.
Ça dépend des missions. Voilà, quand on est sur des missions ultra secondaires, ça vole pas forcément très haut. En revanche, je trouve que le système est vraiment, vraiment génial, quoi, avec les réponses, les arbres qu'on connaît depuis Mass Effect. Et ça, c'est super efficace. Hein. Je trouve que ça marche très, très bien.
Oui, c'est très fluide, quoi.
C'est fluide, voilà, ça se fait.
On va revenir sur Dragon Age Inquisition après Monsieur Fall et sa chronique jeu de société Monsieur Fall de TrickTrack.net. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de jouer au détective grâce à Détective Academy, un jeu signé Robin Étringer et illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes, et c'est édité en français par Cocktail Game, et oui, ce qui signifie que c'est un party game de la déconne dedans. Il est bon de se tordre les neurones, mais il faut bien s'arrêter de temps en temps l'esprit, mon cher Erwan, et Détective Academy vous propose cela, de passer un bon moment entre amis. Alors, nous sommes face à un jeu de émetteur-récepteur, c'est-à-dire que des gens autour d'une table vont tenter de faire deviner à d'autres personnes quelque chose écrit sur une carte. Et Detective Academy propose des petites subtilités que je vais vous expliquer là juste là maintenant. Alors, il y a par exemple, prenons 5 joueurs autour de la table. Eh bien, 3 des joueurs présents vont tenter de faire deviner aux 2 autres un mot en commun qu'ils auront choisi sur une carte. Et pour ce faire, ils vont recevoir des indices. Et chacun leur tour, ils devront utiliser cet indice et rien d'autre pour faire deviner le mot aux autres joueurs. Celui qui va faire deviner le mot avec son propre indice va marquer des points, et les autres joueurs qui ont deviné vont marquer des points. Enfin, vous lisez la règle pour les détails. Mais ce qui est donc amusant, c'est les indices que vous allez recevoir. Ils sont divers et variés. Par exemple, vous avez le classique mime. Le joueur dont ça va être le tour va tenter un mime pour faire deviner quelqu'un qui est présent sur la carte qui a été choisie par les joueurs. S'il ne le trouve pas, ça va être au joueur suivant qui lui peut-être devra faire un dessin, donc il devra dessiner. Et ainsi de suite, vous enchaînez jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé. Vous allez devoir donner le nom d'un personnage, vous allez pouvoir par exemple faire des bruitages, vous allez dire un animal, vous allez par exemple dire une couleur ou un nombre. Enfin bref, c'est assez plaisant car il y a un certain nombre d'indices, et en fonction de la personnalité ou de la chose à faire deviner et tout ce qui est passé avant, avant. C'est un peu comme pyramide, vous savez, une brique, trois briques, quatre briques. Parfois, vous êtes le premier avec un truc évident, vous le dites, les gens le trouvent. Parfois, c'est vraiment pas clair et ça va donner un indice aux autres. Enfin bref, c'est très malin, c'est très fin, c'est très subtil, c'est super amusant. Alors bien sûr, hein, ce qui est bien, c'est que si vous savez pas dessiner, bah c'est pas très grave. Si vous êtes mauvais en mime, c'est pas très grave. Mais comme les parties s'enchaînent et que vous tournez au fur et à mesure et que les indices vont changer en fonction des tours de jeu, bah, vous vous retrouvez face forcément à un truc avec lequel vous êtes à l'aise et c'est ce qui fait que c'est amusant. Et les déclics cérébraux que déclenche Detective Academy sont assez amusants. Ils sont pas loin de ceux que l'on peut trouver dans Time's Up. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez dire clou et puis on va vous dire, je ne sais pas moi, John Hurt. Et là, vous ne savez pas pourquoi, mais en tout cas, ça fonctionne. Je vous rappelle le nom du jeu, Detective Academy. C'est un jeu de Robin Ettringer et illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes et c'est édité en français par Cocktail Games. Ça coûte 15€ dans une boîte métal. Et moi, monsieur Arawan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv que vous pouvez retrouver. Je rappelle qu'il y a un système, une opération de financement participatif sur TrickTrack.net pour avoir un nouveau salarié dans TrickTrack. Enfin voilà, c'est, vous pouvez aller voir sur TrickTrack.net. Je vous vois vous lancer des regards, c'est un petit peu inquiétant.
Complice avec des clins d'œil et des petits sourires. Mais non, parce qu'il y en a marre de cette minute culturelle, Erwan, que tu nous ridiculises depuis des années.
Mais pas du tout, pas du tout.
Tu nous humilies.
Ah non.
Il était temps qu'on renverse un peu la tendance. Et l'ami Jérémy, hein, on le sait. Salut, nous avons envoyé quelques questions à ton attention. Et donc, on va te poser une petite liste de questions. Voilà. C'est informel, c'est vraiment entre nous.
Jérémy Israël, donc.
Voilà, exactement. Ouais. Tu nous envoies quelques questions.
Et je compte les points.
Tu comptes les points, mais il
n'y a que Erwan.
C'est pas grave.
Je connais les réponses, toi aussi. Donc, bon, on va faire ça très simple, on est entre nous. Erwan Cario. Donc,
oui.
Vous connaissez bien l'histoire du jeu vidéo, vous connaissez bien.
Ah ouais, non, mais non, ça.
Quel est le nom du personnage principal de Dishonored?
Non, c'est pas Drake, c'est pas Conrad, c'est pas possible, je l'ai.
Est-ce qu'on l'aide ou pas? Comment
Victor,
il fait Erwan Cario?
Comment il fait, Erwan
Cario, il fait comment? Il nous aide pas, non?
Non.
Alors, un petit point, si on donne une lettre.
Voilà, c'est ça. Tu peux nous supplier de donner la
balle. On balance une lettre.
Non, attends, laisse-le mijoter.
Non, il faut pas mijoter, autrement, c'est trop long après.
D'accord. Bon, ça commence par un C.
Non mais c'est dingue, je l'ai
ça
sur
ça finit
le...
par un O.
Bah tant pis, allez, il n'y aura pas le point.
Ouais, non, bon, là, je...
Vas-y, tu veux poser la prochaine, vas-y.
Non, je sais plus.
Bon, il s'agissait de Corvo.
Ah mais Corvo, mais oui, bien sûr.
Erwan.
Oui, je non, mais c'est pas la peine de dire. Non mais d'accord,
okay,
il faut formaliser.
Erwan,
j'ai zéro là.
Je vais te donner 3 indices, et à partir de ces 3 indices, tu vas devoir dire un mot, dire quelque chose. Alors, Robo Ninja, Namco... Sous les Tekken, je suis
Yoshimitsu.
Bravo.
Bien, un point.
Ouais. Bon, déjà, j'ai sauvé l'honneur, c'est bon. Hein.
Alors là, bon, c'est vraiment trop facile, hein, vraiment. Je la pose, celle-là. Ouais, allez. Dans ce jeu, le joueur incarne un basketteur qui fait du kung-fu dans une dimension parallèle.
Chaque attaque. Non, pas chaque attaque, ça c'est le film. C'est.
Oulala!
C'est pas chaque attaque. C'est chaque.
Shaquille O'Neal.
Oui, non, mais c'est. Oui, d'accord.
Erwan?
Comment tu sens ? Attention.
Chaque fou.
Ah bon. Ensuite, je combats pour sauver l'honneur et prouver l'innocence de mon frère, le premier cavalier de l'Apocalypse. Je suis.
C'est pas Dante, c'est dans l'autre série là. Mais oui, l'autre série. Je sais plus, mais je sais.
Darksiders.
Voilà. Ensuite, il s'appelle comment?
Ah bah oui, mais
il s'appelle comment dans Darksiders? Je sais pas moi comment il s'appelle dans Darksiders.
Il s'appelle Death.
Ah mais Death, oui, Darksiders 2 d'ailleurs dans celui-là.
On en a parlé tout à l'heure. Quel a été le nom de code de la PlayStation 4? Quand on parlait encore d'elle de façon un peu fantomatique, on savait pas trop comment à quoi elle allait ressembler.
Dolphin.
Ah non, c'est la GameCube, ça. Non.
Ah mais moi, je m'en conchonde.
Tu t'es trompé de crèmerie. Non.
Robo Ninja, non, je sais pas.
Orbis.
Ah ouais, non, mais... Mm-hmm. En plus, c'est pas des questions qu'il y a déjà posées dans les minutes culturelles.
Ah si, ouais, je crois que c'est un best-of.
C'est un best-of,
on a pu être humilié sur ce genre de choses.
Ouais, voilà, c'est ça, Orbis.
Bon, il y en a une dernière... il est chaud, là.
Ah, il va y avoir...
2 points, c'est quand même pas mal.
Je suis un jeu d'action. Initialement développé, c'est un peu long, hein, mais il faut.
Ouais. Voilà. Ah oui, c'est façon. Voilà. Question pour un champion.
Ouais, exactement. Tu prends la main ?
Ouais, je prends la main.
Ah, d'accord.
Pour 4.
Je suis un jeu d'action, initialement développé pour PS1. Je suis aussi sorti sur PC et Saturn. J'ai pour particularité d'être divisé en 3 niveaux très distincts, proposant 2 gameplays très différents.
Facile.
Le premier étant un jeu de tir à la 3e personne, le second un rail shooter, et le troisième une course contre la montre en voiture. Adaptation d'une grande saga de films hollywoodiens dont je reprends les scénarios. Mon héros bien connu s'efforce de sauver des otages, éliminer des terroristes et trouver des bombes avant qu'elles n'explosent. Sorti en 1996, développé par Probe et édité par Fox Interactive, je suis...
Non, Erwan, dans ta
Mais en plus, on en a parlé, on en a parlé, mais c'est une question pour Patrick,
tu l'as
c'est
fait,
pas pour moi.
Tu l'as fait, ce jeu, c'est pas possible. C'est... Il est mythique. Mythique, 3 parties, c'est pas dangereusement vôtre, hein, qui était en 3 parties.
Mais non, mais en plus, je
Mais au cinéma,
je
il y en a plus que 3 maintenant.
Hmm
enfin, au cinéma, il y en a plus que 3.
Oui, c'est vrai, de films, ouais, bien sûr. Mais non,
c'est
non,
pas Bourne. Non, c'est pas Bourne.
Ah bah non.
C'était pas, allé, c'est pas
non,
sorti
non,
à l'époque.
Non, ouais, non, il n'y a pas l'année de sortie. Si, 96, ouais.
Non, 96, c'était pas ça. C'était pas ça. Et il y en a plus. Fou, non, je. Je sais pas. Je vais regretter quand tu vas le dire. Je sais, mais non non.
D'ailleurs trilogie.
Ah oui, d'ailleurs trilogie, mais je n'y ai pas joué, donc voilà. Je m'en sais
Bon, écoute, ça va.
Ça va. Deux points. Franchement,
On fera des opérations commando régulièrement. Mm-hmm. Maintenant, tu ne seras jamais tranquille. On lâchera pas la pression.
Allez, on revient sur Dragon Age Inquisition. The Templars come to kill you. We are to withstand this monster, we must control the battle. More pain this time. The Elder One still comes. You are a mistake. You should never have existed. Donc on revient sur ce petit bijou, hein, donc un peu insoupçonné, sorti par BioWare. C'est surtout qu'on n'entendait pas plus trop la licence après un Dragon Age 2 un petit peu poussif. Là, il y a... Moi, je reviens sur ce que tu as dit, Patrick, c'est cette introduction. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il se base sur l'univers Dragon Age, qui est donc un univers complexe à base de chanteries, à base de cercles des mages. Normalement, qui doivent signer un traité de paix, et c'est ça où il y a la brèche qui arrive, qui fait tout exploser. Donc,
ouais, finalement, la paix ne se fait pas. Et
la paix ne se fait pas, machin. Et en fait, il profite, voilà, on a l'univers, maintenant il nous propose un monde semi-ouvert, donc l'univers est là. Et ben, on va mettre le joueur directement dedans. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un peu sans complexe, où quand même, ils nous font l'introduction. La plus stéréotypée de l'univers, c'est-à-dire que 1, on est amnésique, 2, on est l'élu, et 3, on doit sauver le monde.
Non, mais voilà, on est complètement
dans les poncifs, mais en même temps, moi je viens de créer mon personnage, je suis assez content.
Je voudrais savoir quels sont les personnages que vous avez créés. Moi ça m'intéresserait bien de
Je crois qu'on n'a pas fait original, je crois qu'on a créé à peu près le même.
C'est-à-dire,
une espèce de barbare, un humain quoi.
Un guerrier,
épée, bouclier.
Moi épée à deux mains.
D'accord, bah moi aussi.
Moi épée à deux mains, j'aime bien ce côté tournoyant, un petit peu virevoltant. Voltant de l'épée à deux mains ou de la hache, variation.
D'ailleurs, il y a un éditeur de personnages qui est hyper pointu au niveau du détail, des caractéristiques physiques, etc. C'est vachement.
C'est toujours un peu naze finalement. Sauf si on est artiste, on n'y arrive jamais à créer un truc un peu trippant. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait reproduit pratiquement Daenerys de Game of Thrones c'était pas mal. Mais on est tout de suite propulsé comme ça. On est tout de suite important parce que il faut pas grimper les marches, grimper les étages dans l'Inquisition, t'es tout de suite le mec, le messager dans Drasté.
Tout le monde regarde.
Et ça j'aime bien justement, c'est aussi ces deux niveaux de, on va dire de, je sais pas, c'est le jeu joue avec les échelles, avec l'échelle. C'est-à-dire que j'aime bien le fait qu'on fasse des choses très aussi triviales que de explorer et j'y retourne cueillir des plantes. D'explorer, d'aller me balader librement parce qu'au départ je suis parti, j'ai suivi les quêtes et puis je me suis dit fac les quêtes, je vais faire
je pars à l'aventure.
Ouais. Voilà, j'aime bien ce côté très trivial de regarder la nature, regarder les bouquetins, c'est brouillé.
Un système de campement qui est pas mal d'ailleurs.
Et j'aime bien aussi le fait de d'avoir le sentiment d'avoir une espèce de puissance, de destin, de pouvoir imposer ma marque, mon destin sur le monde, en me rendant sur la table de commandement où on domine les régions, on va pouvoir envoyer ses messagers ou ses acolytes à gauche, à droite, faire des missions, récupérer de l'argent. Et j'aime bien ce côté entre le très petit et trivial et le côté important où on se sent vraiment très important.
La nonchalance de l'élu, quoi, qui se balade, qui fait pas ce qu'il a à faire, mais qui explore. Mais non, mais c'est bien.
Et franchement, là, au niveau des paysages, superbe réalisation. Au niveau de l'histoire, ça tient la route. Je trouve que ça gagne en intensité avec les heures de jeu. Parce que, alors, pour le coup, même si on se contente de faire le scénario et la quête principale, il y a quand même pas mal de boulot. Hein, je suis pas encore très très loin là-dedans. Et aussi des surprises visuelles. Alors, on a parlé des paysages. Moi, j'ai ce passage qui me reste encore en mémoire et qui va me rester longtemps, où j'arrive sur la plage. Je sais pas si t'y allais sur la côte. Et on désigne quelques bandits comme ça, et à droite, loin, à gauche. Et on descend sur la côte. Et puis là, au loin, on voit un dragon se friter avec un géant. Je veux pas spoiler, c'est juste une scène comme ça.
C'est impressionnant.
Et je dis pas ce qui se passe après, mais le moment où on arrive là, c'est encore ces trucs d'échelle.
Il y a un frisson
qui est là. Et on sait qu'on n'est pas dans un jeu anodin. Il y a quelque chose de grandiose dans ce Dragon Age Inquisition qui fait vraiment du bien.
Même dans l'architecture des endroits, moi j'ai déjà scotché sur des statues immenses.
Il y a des statues qui sont laissées à l'abandon, parmi des herbes et tout. Très bien.
Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à vibrer pour un RPG Heroic Fantasy avant Witcher 3, qui est très attendu début 2015. Donc j'attendais pas du tout à repartir comme ça dans une grande aventure. Et là, franchement, Dragon Age Inquisition, bien joué de BioWare. Autre chose...
On parle de combien d'heures de jeu, grosso modo?
Je crois une cinquantaine minimum.
Au minimum une cinquantaine, facilement. Ouais.
Et petit point négatif quand même, je voulais le dire, même si le jeu est tellement bien et tellement prenant qu'on finit par l'oublier, il y a une interface toute pourrie qui n'arrête pas de m'énerver. L'interface utilisateur est un non-sens absolu.
C'est complètement
dingue en 2014 d'avoir à subir une interface utilisateur comme ça. C'est une plaie pour changer ses objets, c'est une plaie pour améliorer ses personnages. Il y a manque d'informations, c'est une galère en nombre de clics, alors qu'il y a quand même des exemples de bonnes.
Tu vois le pavé tactile du pad PS4, il y a vraiment des trucs à faire quoi pour faciliter les menus,
juste que tu fasses un menu correctement.
Le menu est une horreur quoi, on se planque pas tout le temps, c'est juste pas intuitif.
Mais bon, on pardonne, ça aurait pu être pénible, mais on pardonne à cause du reste du jeu. Voilà, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mes chers amis. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël?
Ça commence, c'est deux tueurs en fait, deux types un peu bizarres qui arrivent dans une boutique de comics, et ils arrivent et...
Utopia.
Voilà, c'est ça, gagné. Un point, Erwan. Voilà. Et ils demandent Where is Jessica Hyde? Où est Jessica Hyde? Et c'est vraiment, Erwan, tu as deviné. J'ai regardé la première saison de Utopia et je suis vraiment tombé amoureux de cette saison. Une série entre la comédie noire, le thriller, la série d'espionnage, la comédie de mœurs, c'est un truc assez incroyable avec des couleurs absolument dingues. C'est-à-dire vraiment genre, c'est comme si tout était surexposé. Et c'est vraiment génial quoi. C'est un ton vraiment britannique pour le coup. Il n'y a que eux pour mélanger aussi bien le thème justement du complot avec la comédie et des choses mais vraiment très violentes et très très gore, enfin quand même vraiment violentes. Et ils sont très forts quoi. Et donc j'ai hâte d'attaquer la saison 2 tout en sachant qu'il n'y aura jamais saison 3 malheureusement.
Moi j'ai pas osé encore attaquer la saison 2, mais c'est vrai que le premier épisode part très loin, qu'on a l'impression que ça va jamais durer sur toute la saison. Ils sont partis tellement loin qu'ils vont jamais tenir ça tient le niveau toute la saison. Très très belle série Utopia. Patrick.
Moi, série, je suis toujours sur The Walking Dead 4, saison 4. Donc, je suis un peu en retard par rapport aux diffusions aux US.
Mais
j'aime bien. Enfin, je trouve que ça tient bien la route. Et je fais toujours des recherches archéologiques. Là, je cherche en ce moment à savoir s'il y a bien eu une version Enterprise du jeu A View to a Kill, donc une adaptation du Bond de 85. Et je passe le bonjour à Nexus qui nous écoute, je pense. Je fais des recherches sur toutes les versions possibles de ce jeu. Donc, si quelqu'un nous entend sur une version Lancet 64 qui serait sortie à une époque, je cherche.
Voilà, une bouteille à la mer. Voilà.
Investigation.
Bon bah moi je suis toujours un peu à la ramasse hein. Mais tiens j'ai trouvé un truc, c'est, je suis tombé dessus quand même, je voulais le signaler alors voilà, après les plus belles berceuses du monde dont j'ai parlé la semaine dernière là c'est un court métrage d'animation absolument exceptionnel, un court métrage français qui s'appelle Le Parfum de la Carotte.
C'est pour quel âge?
Qui, à 2 ans et demi c'est pas mal et jusqu'à 7 ans
on va en manger les mecs, on va en manger là.
Non et franchement c'est un court métrage d'animation, non mais c'est super beau, c'est un court métrage avec un lapin et un écureuil, et c'est surtout un court-métrage de comédie musicale avec à voix Agnès Jaoui et c'est, non mais c'est magnifique et ça se regarde même quand on a passé l'âge.
Ça mange des noisettes.
Oui, mais voilà, l'écureuil il cuisine des noisettes et le lapin des carottes. Voilà. Et sinon, ça s'appelle Le Parfum de la Carotte. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est une super découverte. Non, mais si ça dure... Je suis désolé, ça dure 20 minutes. Moi, je l'ai regardé 8 fois. Et,
oui, mais tu n'avais pas le choix.
Mais si, en plus, je... Non, mais je l'ai imposé à mon fils, en fait. C'est... Ah, non, mais...
D'accord.
Non, mais lui, il aimait bien aussi. Hein. Mais moi, beaucoup. Voilà, c'est fini. On se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo aussi même. Ciao.